On va prier. Père, nous te remercions de nous avoir réunis ce matin. Nous te remercions d'avoir fait de nous une famille, d'être notre Père. Et Seigneur, tu vas encore nous parler ce matin, alors ouvre nos cœurs. Amen. Vivre à contre-courant du monde. On va lire 2 Corinthiens 6. Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alors, je pense que si on est chrétien, on est appelé à vivre à contre-courant du monde. Loin des influences néfastes, celles qui ne viennent pas de Dieu. Nous sommes en fait des hommes et des femmes comme les autres. La différence, c'est que nous avons été choisis par Dieu, mis à part, pour être pour lui. Or, c'est le mystère de la prédestination et on ne va pas le résoudre ce matin. Dieu, dans sa grâce et par son Saint-Esprit, nous transforme et nous pousse à nous préparer à une vie de sainteté en vue du rendez-vous qu'il a fixé à chacun d'entre nous. Plusieurs passages de la Bible comparent Dieu à un potier. Le potier qui crée des vases, tous différents les uns des autres, mais des vases qui sont beaux pour montrer son art. Dieu veut nous transformer pour nous amener à sa ressemblance, pour le montrer lui, pour que nous puissions être des modèles qui reflètent notre Père Céleste. Donc pour que nous puissions le refléter à ceux qui nous entourent, mais aussi pour que nous puissions plus tard vivre avec lui un avenir éternel dans son royaume. C'est pour ça qu'il nous demande une vie différente de celle de nos contemporains. Nos contemporains qui vivent, eux, sans trop le savoir, une vie pour la gloire de leur propre père, le diable. Alors revenons un peu en arrière. Il y a bien longtemps, le patriarche Abraham mena une vie de nomade. Il chercha la présence de Dieu à l'écart des influences extérieures. Il fallait peut-être qu'il se débarrasse de son ancienne culture. Dieu est ainsi, il rend ses enfants nés de nouveau, différents, non conformistes et opposés à ce que le reste du monde croit. Or plus tard, lorsque le peuple d'Israël, après avoir passé 400 ans d'esclavage en Égypte, fut libéré par la main de Dieu, il quitta l'Égypte avec seulement ce qu'il pouvait porter. Mais cette nation devait changer le monde. Cette nation d'Israël avait été choisie par Dieu pour devenir une toute nouvelle nation, totalement différente de celle qui l'entourait. Et Dieu leur donna une culture qui était à contre-courant de la culture de l'époque pour en faire un peuple à part. Alors ce matin, on va voir 3 grands points. Jésus qui était à contre-courant de ses contemporains. Israël qui était choisi par Dieu pour être son peuple. Et puis les chrétiens qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. Or Jésus, si on regarde dans tous les temps, Jésus est certainement celui qui a le plus bouleversé ses contemporains par sa façon de voir les choses et par ses comportements. Alors certainement, les gens qui le côtoyaient ne l'auraient pas suivi si ses paroles n'avaient pas été appuyées par des miracles et puis par l'autorité visible qu'il avait de la part de son père. Parce que les idées qu'il émettait étaient complètement différentes de l'idéologie de son temps et pouvaient paraître complètement absurdes. Alors, si on voit quelques-unes de ces oppositions, par exemple, quand le monde dit « moi d'abord, les autres après », Jésus lui dit « les derniers seront les premiers seront les derniers ». Le monde dit « haïssez vos ennemis, rendez-leur les coups qu'ils vous ont donnés ». C'est ce que nous a dit un peu Nasser tout à l'heure. De son côté, Jésus disait, vous avez entendu ce qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la gauche. Œil pour œil, dent pour dent. Certains vous diront que c'est Dieu qui l'a dit. Je pense qu'ils n'ont pas bien lu le texte. On va voir Deutéronome, ce que dit Deutéronome 19 à partir du verset 16. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait le dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Alors le texte nous dit quoi? Que cette loi était destinée à la justice. Ce sont les autorités seules qui pouvaient appliquer cette loi. Et d'après ce texte, dans un cas très particulier. Bon, on referme la parenthèse. Jésus disait aussi, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du mal à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Facile, hein? C'est là des paroles tout à fait révolutionnaires. Elles sont à contre-courant de la pensée actuelle, mais pas seulement actuelle, de tous les temps. Cependant, si tous les humains aimaient leurs ennemis et les bénissaient, s'ils faisaient du bien à ceux qui les haïssent, priez pour ceux qui les maltraitent, tendez l'autre joue en rejetant toute vengeance. Or, je pense que les actualités de 20 heures seraient drôlement plus courtes, puis qu'on pourrait peut-être recycler les prisons en colonies de vacances, non? Un autre principe que le monde préconise. Dans notre monde, il faut être gagnant, avoir du pouvoir, être respecté. La Bible nous encourage plutôt à l'humilité. Ne vous faites pas appeler maître, car vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre père, vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef, vous n'avez qu'un seul chef, le Messie. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Le monde qui nous entoure pense que le bonheur est pour les intelligents, les instruits, ceux qui ont une haute opinion d'eux-mêmes. Mais Jésus nous disait dans le sermon sur la montagne, heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. certains hommes dans l'histoire, et on peut citer Hitler, mais probablement aussi Pol Pot en Asie et Mobutu pour les Africains, voulaient posséder la gloire et le pouvoir sur les autres en les dominant, en les opprimant, en les persécutant. Mais le Seigneur Jésus nous fait savoir qu'en réalité, c'est juste le contraire. Heureux serez-vous, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est pour eux. Or, le deuxième point, Israël choisi par Dieu pour devenir son peuple. Les Israélites que Dieu avait choisis pour introduire les plus grands changements dans l'histoire de l'humanité. Ils devaient amener un ordre de vie fondamentalement nouveau pour l'être humain sur la terre. De Deutéronome au verset 7, au chapitre 7 et au verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Sans aucune autre raison, l'Éternel vous aime. Il les a aimés pas parce qu'ils surpassaient les autres peuples, mais simplement parce qu'il les a aimés. Ce n'est pas eux qui ont choisi le Seigneur, mais c'est l'Éternel qui a choisi lui-même. Ils n'avaient rien de spécial, simplement ils étaient choisis. Quand, en échappant à l'esclavage éreintant de l'Égypte, ils quittèrent ce pays avec leur sac à dos sur les épaules, c'était une douzaine de tribus rebelles, instables, superstitieuses. Et le Seigneur les conduisit avec grâce et avec une patience infinie. Leur montra comment vivre. Il donna à cette nation une nouvelle destinée, une destinée qui dépassait de loin celle des autres pays. Mais chose incompréhensible, leur pensée restait toujours à l'esclavage du passé. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte qui ne coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Et c'est pourtant ce peuple que Dieu a choisi. Aucun autre peuple n'a joui des avantages incroyables qu'avait cette nation. Les principes d'une vie civilisée, qui étaient écrits dans le code du Lévitique, étaient inconnus des autres nations, des autres empires. Nous le voyons dans le Deutéronome, Moïse disait « Quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ?» Vous les observerez et les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse, votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » L'Écriture nous rappelle que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et nous sommes parvenus à peu près à ce stade de l'histoire, ceux qui vivent à la fin des siècles. Nous avons aussi un avantage, une nouvelle humanité, une nouvelle vie, avec une nouvelle nature, et nous avons une nouvelle destinée. Ce qui s'est passé un jour avec le peuple d'Israël se passe maintenant avec les chrétiens. Une révolution de principes de vie et des objectifs nouveaux. Les croyants sont des révolutionnaires. Ils dérangent. Paul et Silas rencontrèrent une violente opposition. Ils furent accusés d'avoir bouleversé le monde. Finalement, ce fut un compliment. Jésus était venu pour ce résultat-là. Pour une culture à contre-courant. Comme pour Israël jadis, Dieu appelle aujourd'hui un nouveau peuple, un peuple spécial, né d'en haut. Un peuple dont la culture et la manière de penser sont à l'encontre de la culture du monde et de sa manière de penser. Une nation nouvelle, unique, totalement différente des autres nations. Ce qu'Israël a été appelé à être, nous le sommes en Jésus-Christ. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Le premier grand discours de Jésus, dans Matthieu 5, même les suivants, semble décrire un monde à l'envers. Dans les Béatitudes, il commence avec des affirmations complètement contraires à la pensée unique. Ceux qu'il considère comme heureux sont les démunis, les rejetés de la terre. Attachons-nous à notre Seigneur, revêtons son humilité, sa douceur. Cherchons comme lui à plaire à Dieu, pas aux hommes. Et cherchons premièrement son approbation à lui, pas celle du monde. La gloire humaine frustrera toujours, mais Dieu honore ceux qui attendent tout de lui. Notre bonheur passe par lui, et lui seul donne un sens à notre vie. Le royaume de Dieu est la seule alternative face au chaos de ce monde, avec ses faux messies, ses faux prophètes, ses divergences, ses ambitions, ses dégâts politiques et sociaux, son ingéniosité au mal. Vous qui êtes des observateurs avisés, vous avez remarqué que les hommes en général sont manipulés par les médias qui leur inculquent à aimer le plaisir plus que Dieu, comme disait Paul à Timothée. Le monde est un endroit régi par les valeurs matérielles. Pour les nations qui entouraient Israël, ce peuple était fou, absurde. Il s'en remettait à Dieu pour leur sécurité, se moquait des grands dieux des nations qui les entouraient, ne croyait pas aux signes du ciel, et ils adoraient un Dieu qu'ils ne pouvaient voir, ni ne pouvaient décrire. Mais ils étaient bien en avance sur leur temps, et ils étaient marqués par la sainteté. Or, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde, disait le Christ. Les adeptes de beaucoup de religions portent souvent des signes distinctifs, des marques physiques ou des habits, pour montrer leur appartenance religieuse. Jésus ne nous donne pas d'instructions sur notre apparence, sur nos habits, nos bijoux, nos coupes de cheveux. Il veut que nous soyons connus non par notre apparence physique, mais pour ce que nous sommes. Les chrétiens ne sont en rien différents des autres, excepté leur cœur et leur caractère. Les chrétiens ne sont pas des gens ordinaires dont le passe-temps serait la religion. Le monde a ses passions captivantes, le foot, le sport et tant d'autres choses. Mais les chrétiens, ce n'est pas des fans de religion. Ils sont simplement serviteurs du Dieu vivant et vrai. Si nous nous différencions forcément, fondamentalement, ce n'est pas seulement en raison de ce que nous faisons, de notre style de vie, mais par notre nature. Nous sommes participants de la nature divine. Et nous sommes dirigés par des forces que le monde ne connaît pas. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà ce qui nous démarque fondamentalement. Nous vivons, nous travaillons, nous aspirons à des choses comme tout être humain sur cette planète. Nous mangeons, nous nous habillons selon l'air du temps, nous jouissons de belles choses que les hommes et les femmes peuvent faire, tout comme tout autre habitant de la planète, mais nous n'appartenons pas à cette terre. Nous ne sommes que des passants qui s'attardent, comme disait un prêtre catholique. Les enfants de Dieu n'utilisent pas des signes extérieurs, mais marchent dans les rues comme n'importe qui. Il y en a même qui font de la patinette. Ce qui les différencie, c'est ce qui se cache en eux. Ils sont identifiés par l'amour, la foi et leur manière de vivre. On est appelé à être différent. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Le monde passe, sa convoitise passe aussi. Nous n'investissons pas nos ambitions et nos espérances ultimes dans la vie terrestre et les choses éphémères, mais dans les choses éternelles, dans la vérité et les réalités de l'appel de Dieu. Investir dans les choses éphémères ne laisse qu'une vapeur, comme aurait dit l'Ecclésiaste. Un romancier moderne a écrit « Les chemins de la gloire ne nous mènent finalement que dans la tombe ». Nous devons être préoccupés si nos vies en tant que disciples de Jésus ne se distinguent pas des autres. Si nous sommes connus seulement comme pratiquants d'une certaine religion et que notre foi n'est qu'un sujet intellectuel. Le premier homme de foi et peut-être le seul de son temps était Abraham. Dieu se nomma lui-même le Dieu d'Abraham. Les gens ne connaissaient pas Dieu. Mais il connaissait Abraham et il comprenait Dieu seulement à travers de la vie d'Abraham. Dieu se montrait à travers sa vie. On est appelé à être les mêmes. Si nous ne nous distinguons pas clairement du monde, nous ne le gagnerons jamais. Jésus nous dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. En étant à contre-courant, nous pouvons attirer des gens vers Dieu. Car si les disciples de Jésus que nous devons être vivent comme le monde et lui ressemblent, ça n'amènera jamais personne à le tourner du monde. Le monde est là, en a assez d'être ce qu'il est. Après des milliers d'années d'innombrables expériences politiques et sociales, seul Jésus est la réponse à tous les problèmes. Alors je vais conclure. En quelque sorte, qu'est-ce que le chrétien est appelé à faire ou à être ? Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau. » mais sur le pied de la lampe. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Nous sommes appelés à rayonner là où Dieu nous a placés. Dieu place ses enfants, les témoins de ce qu'il est, ici ou là dans ce monde, comme un bon urbanisme placerait des lampadaires dans les rues d'une ville. Plus l'endroit est sombre, plus les lampadaires sont utiles. Mais de même que les lampes électriques sont reliées au réseau pour donner de la lumière, pas vrai, Patrick ? Si on ne branche pas la lampe, elle n'allume pas. Il nous faut être en contact avec la source d'énergie. Le Seigneur nous en a avertis. Séparés de moi, vous ne pourrez rien faire. Les lampes n'ont pas choisi l'endroit où elles sont placées. Dieu lui-même choisit pour nous. L'important, c'est que nous donnions de la lumière là où nous sommes. Il y a des endroits dans ce monde où donner la lumière est dangereux. C'est sur le plan moral, dans un monde qui préfère l'obscurité, que le chrétien apporte de la lumière. Et cette lumière, c'est le rayonnement de la vie de Christ qui vit en nous. Chacun de nous se trouve dans un certain contexte, différent les uns des autres, sur un lieu de travail déterminé, dans des conditions qu'on voudrait peut-être changer, mais qui de toute façon ne sont pas fortuites. Si Dieu m'a placé là, il sait pourquoi. Il attend de moi que je reproduise justement là, autour de moi, les perfections morales de Jésus. Bonté, humilité, douceur, joie, patience, dévouement, j'en passe. Ceux qui ne lisent pas et qui ne connaissent pas la parole de Dieu doivent en quelque sorte pouvoir la lire dans ma vie. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut que le courant passe. Rester en contact avec la source divine, maintenir effectivement la communion avec Dieu, rayonner de sa lumière, c'est la raison d'être du chrétien sur la terre. Ne manquons donc pas ce qui est notre vocation, ce que nous devons être, avant ce que nous devons faire. Que notre lumière brille ainsi devant tous les hommes. Amen.